Parole d'auteur. Parole d'auteur, Philippe Gilbert.
Il faut bien 10 ans pour fabriquer un petit bouquin, écrit son auteur. Pour cette tentative d'écrire à propos de son moi, une formule lui vint. J'habite chez mon libraire et mon libraire chez moi. Ce serait un beau titre, Le libraire de Gambetta ou L'homme qui habite les livres. Mais ces pages où il avait la volonté de saluer cet ami se transforment progressivement en livre d'adieu, métamorphose à son insu. Ainsi, ce nouvel opus devient autant un récit d'Yves qu'un portrait du libraire et sans doute un rendez-vous inachevé. Le libraire, c'est Christian Torel, le patron d'Ombre Blanche. Son ami, le Cyrano déguisé en fou chantant, c'est Yves Charnay, carnettiste virtuose qui nous propose dans son ouvrage fragmenté « Le libraire de Gambetta », un beau croquis de mots pour dresser le portrait de son libraire préféré, paru aux éditions Tarabuste en 2023. Bonjour Yves Charnay.
Bonjour.
Bonjour à tous nos auditeurs, à qui je rappelle que cette émission sera disponible sur toutes les plateforme numérique et ainsi que sur le site de Radio Présence. Et à propos du site de Radio Présence, ne vous privez pas de faire vos commentaires sur cette émission, spécialement si elle vous a plu. Yves Charnay, première question. Un Cyrano déguisé en fou chantant.
C'est très bien.
Est-ce que c'est vraiment vous ?
Je ne sais pas, mais c'est très bien. Ce qu'on est soi, ça m'aura pris la vie de le demander, puisque je suis un écrivain comme cela d'identité énigmatique, ou de l'énigme de l'identité, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, dans les images qu'on envoie ou qu'on vous renvoie, donc comment les autres vous voient, celle-là me va très bien parce qu'elle associe deux grandes admirations un peu intempestives de l'enfance. Cyrano, qui est devenu un peu intempestif, puisque pour ma génération, il est lié à l'immense interprétation de Depardieu. Et puis le fou chantant, c'est vraiment le premier qui a fait chanter la langue pour moi, vraiment. Je peux dire que tout a commencé pour moi par Charles Trenet, avant même que je l'écoute, puisque ma mère chantait les chansons de Charles Trenet, me parlait de chansons de Charles Trenet, particulièrement d'une qui s'appelait Une noix, et on se demandait ce qu'il y avait à l'intérieur d'une noix. Et cette espèce de fantaisie, qu'y a-t-il à l'intérieur d'une noix, je me suis dit que c'était des questions de poète qui allaient me faire comme ça, chanter longtemps, j'espère.
Alors quand vous employez cette expression dans le texte, dans le contexte du texte, on a un peu l'impression que vous opposez d'un côté les gens à qui vous vous référez et que vous qualifiez de maître, on va y revenir, et que de l'autre côté, par opposition presque, vous parlez d'un Cyrano, mais moi j'ai regardé l'étymologie de Cyrano, c'est le maître, c'est aussi la référence.
Ah oui, de toute façon. Mais comment vous avez dit, c'est une formule de vous, Cyrano.
Ah, le Cyrano déguisé en fou chantant, c'est vous qui avez les droits d'auteur.
C'est dans le texte.
Ah, c'est dans le texte.
J'ai cru, je vous félicite de cette formule, que je trouvais très bonne.
C'est dans le texte.
Comme je vous dis, moi j'ai oublié comme ça il y a 2 ans. Une fois qu'on a écrit un livre, c'est oublié. Pendant qu'on l'écrit et tout le temps qu'on cherche à l'écrire, c'en est même fatigant tellement c'est par cœur, tellement des fois tu te relèves pour changer une virgule, page 28, parce que ça te revient. Et puis quand c'est sorti de soi-même. Donc je trouvais cette formule très bonne. Et je, voilà. Si c'est moi, je l'assume. Oui, Cyrano en fou chantant. Cyrano, c'est quand même c'est l'intempestif, c'est le panache, c'est le pour rien. Ouais, c'est, ouais. C'est encore mieux si on perd. Enfin, voilà. Enfin, c'est français, on n'ose plus le dire, mais c'est français. Et puis, mais en même temps, c'est comme une virilité, Cyrano. Et Trenet vient mettre là une légèreté. Son œillet à la boutonnière, comme disait l'autre, enfin, ses yeux écarquillés, et cette espèce de légèreté, parce que c'est un fantaisiste du malheur, il fait de la fantaisie parce que c'est triste, Trenet. Et on oublie que c'est triste à cause de sa fantaisie. Mais c'est un enfant triste qui chante. Voilà, donc ça fait une jolie façon d'inventer une figure d'homme et de repère, je dirais, peut-être pas de maître, mais de repère, puisque qu'est-ce qu'un père ? Et ma grande, comme j'en ai pas eu du tout, pas vu du tout quand j'étais petit, et ma grande question. Donc ça fait partie des pères imaginaires. Voilà, c'est une figure, oui, un peu hybride, qui pourrait être désirable quand on est enfant. Tiens, je serais Cyrano.
Tout à fait.
Alors, j'entends.
Yves Charnay, vous n'êtes pas toulousain. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un étranger? Et comment, par quelles circonstances vous êtes arrivé à Toulouse?
Alors, par une formule qui aurait plu à ma mère, institutrice qui adorait ce livre, dans le grand mot, le hasard des nominations. Hein, c'est dans le grand mot qu'ils arrivent là, par le hasard des nominations. Donc, bon fils d'institutrice, j'ai fait les concours, les grandes écoles, tout ça. Et un jour, on cherche un poste. Et donc, j'ai fini ma thèse. Je cherchais, j'étais première année de candidature, donc, à des postes de maître de conférence. L'université, ce qu'elle est, je me dossier pas trop mauvais. Mais enfin, bref, j'étais pas classé. Donc voilà, ça aurait pris des années, j'imagine, à ce que, comme certains de camarades, en assistant. Bon. Et puis, j'étais à bac plus 15, donc j'étais un peu. Ou lassé ou énervé par la réponse, comme ça j'ai fait beaucoup de choses, bon. Mais c'est comme ça. Et c'est donc le hasard, c'est-à-dire que un monsieur qui s'appelait Jacques Kerbrat, qui était directeur des études de Polytechnique, était nommé directeur de super-héros à Toulouse, le garçon était aussi fils d'institutrice, je pense que ça joue beaucoup, il avait une passion des humanités, comme on appelait ça à l'époque, et arrivant dans cette grande école, voyant qu'il n'y avait rien, il crée contre tout le monde un poste. Donc l'année d'après, il obtient un support d'un grège détaché. Enfin, je vais très vite, ben, tout ça est mis au concours. Et c'est moi qui suis élu, à la grande stupeur du reste d'une partie des collègues, parce que les autres, les trois ou quatre autres, étaient aussi normaliens, mais ils appartenaient à la génération d'avant moi, pour qui c'était encore plus dur, c'est encore moins de postes, et qui avaient fait le virage du privé, les gens qui faisaient des pubs chez L'Oréal ou du management, ou, enfin, ce qu'on faisait dans les années 80. Avait trahi. Et ce directeur avait mis tout son poids pour que dans les autres, il n'y avait que moi qui était strictement littéraire. Je finissais une thèse sur Baudelaire. Donc c'était encore plus effarant, je crois, pour certains collègues, de se dire, oulala, mais celui-là, il est vraiment... On ne va pas pouvoir le mettre dans le management du tout. Et donc j'ai eu ce poste, et en 96, ma vie a changé. En changeant de lieu, j'ai mis un an ou deux, je me suis demandé si j'allais rester. C'était quand même difficile comme mission. Et puis, la greffe a pris, et je suis devenu monsieur culture de l'école. Et j'ai même du mal à penser qu'il faut que je parte en retraite bientôt. C'était bien, moi j'aimais bien faire ça. Voilà. Donc le hasard des nominations, et puis la vie. Je suis resté là, c'est en même temps une chose qui permettait beaucoup de liberté dans l'organisation du temps. Parce que si on est écrivain et enseignant, c'est capital.
C'est difficile à concilier. Ouais, voilà. Alors, juste un petit zoom sur l'intitulé de votre thèse, « L'énergie de l'ennui ». Quand on commence à connaître un peu votre œuvre, quand on a lu vos livres, et particulièrement celui-ci, on se dit que peut-être ce choix n'était pas un hasard.
J'essaie de faire une thèse qui ne soit pas autobiographique, mais c'était pas loin quand même. Effectivement, c'est une formule extraordinaire de Baudelaire sur l'intent. Comme Baudelaire pense, la force du mal, l'ennui n'est pas qu'une dissolution, c'est la puissance du vide, en fait, c'est la puissance d'absorption du vide. Ou l'énergie de la disparition. Comme il y a une énergie du mal, il y a une énergie du vide. Et donc j'ai pensé l'ennui comme tel, à partir d'un poème, un petit poème en prose, Le Mauvais Vitrier, où il dit une espèce d'énergie, c'est lui qui a cette formule, une espèce d'énergie qui jaillit de l'ennui et de la rêverie. Donc vous avez tous ces i, là, une espèce d'énergie qui jaillit de l'ennui et de la rêverie, qui font une sorte de salve, comme ça, sonore, pour dire l'explosion à partir du rien. Voilà. Et que les fleurs du mal, c'est quelque chose comme ça. C'est la force qui fait fleurir le mal et qui, en plus, la sublime en fleurs, puisqu'il ne s'agit pas d'aggraver le mal, pour Baudelaire, mais par contre de l'affronter.
D'accord. Alors, vous avez une bibliographie consistante. Le premier ouvrage que vous avez fait paraître s'intitule « Prose du fils » en 1993.
C'est la base, c'est vraiment le camp de base.
C'est le camp de base.
C'est là que tout est parti, oui.
Et on va peut-être voir, et vous me direz si je fais un raisonnement abusif en disant que à partir de ce camp de base, il y a eu des déclinaisons, en quelque sorte.
Oui, des grandes marches, des traversées du désert et du désêtre, et puis parfois des regroupements de questions ou de livres. Mais disons que ces proses du fils qui viennent... De manuscrits déchiquetés, de notes, d'une conscience très très tardive que ça pouvait donner quelque chose, et parce que de très grands intercesseurs à un moment m'ont dit, notamment, enfin, la première à publier ça étant Michel Degui, dont j'avais été l'étudiant, et qui un jour voyant des choses que je finissais par lui montrer, dans nos conversations, comme ça, devenu ami progressivement et ami pour la vie, un jour, il me revient, puis il me dit, on était au Rostand à l'époque, à Paris, face du Luxembourg. je publie. J'avais oublié qu'il dirigeait la revue Poésie. J'étais pas du tout dans cet esprit-là. Moi. Et donc, j'en ai mis un peu plus parce qu'il fallait publier. Et c'est comme ça que j'ai pris conscience de ce que je faisais. Je me rends compte, c'est très artisanal, c'est très archaïque. C'est quand j'ai vu le nom sur la revue, prestigieuse revue, mon nom, un titre, je me suis dit, c'est ça. C'est ça qu'il faut faire. Je vais m'en sortir comme ça. Et donc, peu à peu, c'est constitué. Enfin, j'ai repris des notes et des choses sur 10 ans hein, pour lesquelles je ne pensais pas. En plus, ça ne ressemblait pas du tout à ce qu'était la poésie de l'époque, même que je lisais beaucoup, comme André Duboucher ou Claude Royer-Journoux. Ce n'était vraiment pas la prose que je faisais. J'avais un peu honte et tout. Mais ça m'a, voilà, ça m'a donné la... Je veux dire, c'est comme ce... tu plonges dans un truc, tu dis tiens, cette nage-là, je sais la faire. Donc, voilà, j'ai plongé dans un bain dont on ne ressort pas. Une chanson de Garou comme ça, Splouch, voilà. J'ai plongé dans. Et de numéro de revue en numéro de revue, ça finit par faire un livre, puis de livre en livre, ça finit par faire quelque chose. Oui. Voilà.
Et donc, à aujourd'hui, vous avez plus d'une dizaine d'opus publiés, dont le dernier s'intitule Abati, et qui est donc publié. Ces jours-ci,
oui, toujours,
et dont nous parlerons peut-être un petit instant à la fin de cette émission.
Volontiers.
Alors vous avez, souvent quand je reçois des auteurs, je leur demande si vous avez des sujets de prédilection. Est-ce que dans votre cas, on peut dire que vous avez un sujet de prédilection que j'aurais tendance à qualifier par de l'autobiographie du manque, l'autofiction? Peut-être, tout ça teinté d'amour, de deuil, de mélancolie, avec naturellement une filiation revendiquée dans la lignée Baudelaire, Suran, Artaud, encore Barthes.
Nerval, ce que vous dites là est très nervalien, c'est voilà. Un fil qui me va très bien, c'est les promenades et souvenirs oui, d'un promeneur mélancolique et un peu égaré, donc un mélange de fou, alors cette fois-ci, plus radical hein, pour ce qui est de Nerval. Mais de faire chanter la langue malgré tout. Donc tout ce que vous avez dit est très juste, mais pour moi, c'est un. Alors, j'y insiste, parce que ce n'est pas perçu comme ça. C'est un projet poétique. Il n'a jamais été question pour moi de faire autre chose que de la poésie, sauf que je ne sais en faire que dans l'écriture de l'expérience. Voilà. Donc je travaille au corps la langue et la matière des livres dans une bagarre pour rendre compte de la vie, mais en rendre compte stylistiquement parlant. On entend, dès qu'on se met à lire à voix haute, on entend un travail qu'on voit moins si on n'est pas habitué, parce que dès que tu vas plus la ligne, les gens comprennent plus la question de la poésie en prose. Tout ce travail de vitesse d'écriture que j'ai, ou qui s'impose à moi, ou tout ce travail très phonétique, vous voyez, d'assonance, d'allitération, qui sont la main de l'écriture, voilà, qui sont la poigne. Donc pour moi, c'est un travail de poésie, et parfois avec. Enfin, c'est contrainte qu'il n'y a que moi qui vois, mais que deux paragraphes fassent exactement la même distance, comme des sonnets. Enfin, c'est travaillé comme ça au couteau.
Les mots sont sculptés hein,
oui, voilà.
en quelque sorte.
Et, voilà. Et les mots et les segments de phrases.
Alors, c'est de la poésie, c'est sûr. Néanmoins, à travers.
C'est pas la vie du champ poétique contemporain, mais j'insiste.
et à travers cette poésie, il n'en reste pas moins qu'il y a des idées forces qui transparaissent et que la quête du père est quelque chose d'essentiel.
Et qui se transforme ici en quête du grand frère, puisque Christian Torrel est un mélange des deux, un peu plus d'une autre génération que moi juste avant. Et comme moi, je n'ai pas l'impression d'avoir grandi beaucoup. Très très vite, des gens qui seraient en âge d'être un grand frère, pour moi, sont des figures... paternel. Alors, autant Michel de Guilleté par la date de naissance, Christian Torrel moins, mais je le... Bah, quand je suis arrivé, c'est un type qui a créé une librairie comme Ombre Blanche à Toulouse, quand t'arrives, il y a quelque chose... Pour moi, c'est un père, c'est un repère, et c'est un père, quoi, voilà. Même si, et c'est assez beau dans le livre, enfin, j'espère, il y a comme ça l'amitié parvient à faire changer d'état, c'est-à-dire que c'est des vieux complices maintenant, c'est des vieux copains, on dînait tous hier soir, puisque c'était la fin des 2 jours de la présence de Tarabuste à Ombre-Blanche pour mon livre et celui de Jean-Noël Crismont. Et Christian nous invitait tous à dîner. Ben là, c'était extrêmement tendre, extrêmement amical. On parlait de la vie, des soucis des uns, des autres. Une espèce de fraternité, voilà. Donc, c'est à deux étages. Il y a la verticalité du manque du père, alors, Radio Présence, on peut en parler longtemps. Et puis, il y a la recherche de frères et de sœurs. Et parfois, ça coexiste dans des figures imaginaires, cette fois-ci, qui permet l'imaginaire.
Alors, on va y revenir en détail. Juste un peu avant, je voudrais qu'on revienne sur la caractérisation. Et des fois, on recherche à définir le contenu de l'œuvre. Alors, j'ai trouvé dans votre livre deux définitions de votre œuvre donnée par Denis Tillinac. La première, c'est dit, vous dites, Denis disait toujours qu'il y avait du jus dans mes proses, mais pas de sujet.
Absolument. Ce qui n'était pas rien pour un éditeur. C'est un sujet, l'énergie de la prose, et puis effectivement, ça explose. Une prose explosive sur laquelle j'ai toujours refusé qu'on mette roman, parce qu'un livre est un livre, et un livre se titre par son titre. Voilà. Mais donc, alors là, il aurait été content, parce qu'il y en a le libraire de Gambetta, là, il aurait dit enfin, puisque c'est un titre simnonien. Je l'ai calé, donc c'est la première fois que j'ai vu le titre avant le livre, ça n'est jamais arrivé, je cherche le titre interminablement, parfois même en changeant encore quand l'éditeur a commencé à... Et là c'était simnonien parce que vraiment, y compris que la figure Torel va bien avec ça, c'était Philippe Noiret, c'est l'horloger de Saint-Paul, de Simenon, qui a donné, je ne sais pas si vous le voyez encore, c'était le premier film de Tavernier, avec Jean Rochefort et Philippe Noiret. Et que ma mère adorait ce film, et moi j'étais fasciné, j'adorais, et j'étais fasciné par ce titre, et comme je ne connais, j'étais à Nevers, on ne sortait pas, il n'y avait pas beaucoup de culture générale, comme on dit, je n'avais pas, Saint-Paul, je ne voyais pas du tout ce que c'était, j'ai su qu'après que c'était un quartier de Lyon, je suis allé, etc. Mais donc c'était mystérieux, l'horloger de Saint-Paul, y compris que ça aurait pu être Saint-Paul. Et donc là vraiment, j'ai su le titre, parce que c'était un titre de métier, un quartier, Simenon, le libraire de Gambetta. La rue, avec le doute comme pour Saint-Paul, est-ce un livre historique sur le libraire de Gambetta, ce personnage historique, ou le libraire de Gambetta, le lieu, ce qu'on sait quand on habite Toulouse. Voilà. Mais voilà, donc là pour une fois il y avait un titre et un sujet, mais sinon il n'y en a pas.
Yves Charnay, je vous propose d'écouter la personne que vous avez invitée et qui s'appelle Jean Gabin.
Quand j'étais gosse, haut comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas, et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Vers 25 ans, je savais tout. L'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens oui, l'amour. J'en avais fait tout le tour. Mais heureusement, comme les copains, je n'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Ce que j'ai appris, ça tient en 3-4 mots. Le jour. Quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous sommes en compagnie d'Yves Charnay pour parler de son livre « Le libraire de Gambetta » paru cette année, en 2023, pardon, aux éditions Tarabuste. Yves Charnay, Gabin, c'est un chanteur, un acteur important pour vous?
Quand vous êtes né en 62 et que vous cherchez un père, Voilà. Le clan des Siciliens. Puisque c'est le gamin bourru et lourd, moi, que je connais. Après, j'ai appris à connaître l'ange, si beau, si jeune, des quais des brumes, etc. Mais quand vous cherchez un père dans ces années-là, oui. Et il y a, en plus, vous aviez trois pères pour le prix d'un, hein, puisque le clan des Siciliens, vous aviez Lino Ventura, pour la carrure, et puis, pour comprendre pourquoi un père peut être séduisant et séducteur, et séduire votre mère, Alain Delon, c'était pas mal. Voilà, donc je date irrémédiablement de ça, et de cette lourdeur-là. En plus, il y avait le côté, à ce moment-là, quand moi je suis dans la Nièvre, donc Gabin venait parfois acheter un charolais. Et donc ça nous valait une du journal du centre. Quand Gabin, avec la casquette, venait, il avait le bâton, là, hein, et puis il avait acheté un charolais qui était à côté de lui. Donc ça me confirmait, parce que le journal du centre avait le maximum de ce que laissait de la gloire, que la gloire, c'était bien ça. Et l'absence de père, l'absence dans laquelle j'étais, j'imaginais la compenser que par la gloire, la monnayer que par la gloire, la fausse monnaie de la gloire. Voilà. Et donc c'est ces grands moments de reconnaissance-là, pour voilà, ou un truc comme le grand échiquier à l'époque, il me paraissait, il fallait que j'arrive à faire ça. Voilà. Et là, j'aurais, je sais pas, consolé ma mère, ou enfin rempli tout ce vide qui semblait désespérer ma mère. Voilà. Désespérer le lieu natal.
Alors Yves Charnay, tout à l'heure, vous nous avez expliqué comment vous est apparu comme une évidence le titre. Et donc, quand on est lecteur, quand on tombe sur votre livre, on voit le titre, on regarde la quatrième de couverture et on se dit, tiens, il va nous raconter une histoire sur un personnage qui s'appelle Christian Torel. Donc, on commence à lire. Alors, au début, on commençait un peu à parler de Christian Torel, puis tout d'un coup, sans vraiment qu'on s'en aperçoive, je me dis, mais où est passé Christian Torel? Mais je suis en train de lire un livre sur Yves Charnay. Alors, vous dites que ça vous a échappé un petit peu. C'est quoi le processus?
Alors, j'ai une petite invention. Alors, celle qui n'est toujours pas perçue, c'est de faire de la poésie dans la prose à la fin du XXe, au début du XXIe siècle. Mais l'autre est un peu plus aperçu, on s'est un peu plus rendu compte, c'est faire son autoportrait en faisant le portrait d'un autre. Donc ça, c'est ma petite invention, je crois qu'on le voit. Alors, dans des déboires éditoriaux, il y a une éditrice qui avait refusé le livre sur Nougaro, motif que je parlais trop de moi, et que j'allais parler de Nougaro. J'ai des livres sur Claude, il y en a eu, il y en a, il y en aura. Moi, ce que j'avais à faire, c'était comment ça s'est goupillé entre Claude et moi. Ben, là, c'est pareil, comment ça se goupille entre Christian Torel et moi. Donc, vraiment, c'est Didier Goupil a une belle formule là-dessus, c'est l'autofiction qui est aussi une autrui-fiction, pour reprendre son invention. Et pour être tout à fait clair pour ceux qui nous écoutent, c'est faire son portrait, son autoportrait, en faisant le portrait d'un autre. Soit d'un autre très très proche comme Christian, vraiment, on est vraiment des. Même si c'est parfois à mi-mot, à midi, enfin un peu à la Gabin, justement, mais très intime, ou quelqu'un qui est resté étranger tout le temps que je faisais son portrait, qui était le torero Juan Bautista, qui de toute façon se protège de tout le monde derrière son sourire. Et de toute façon, comment voulez-vous savoir ce que c'est qu'un torero? Est-ce qu'ils savent eux-mêmes qui y sont pour descendre dans l'arène. Mais en tout cas, dans les deux cas, c'est autoportrait. Et du coup, il y a ce nouage entre leur vie et la mienne. Alors après, je ne pèse pas ou je ne sous-pèse pas. Mais par exemple, dans l'expérience de la Grande Dépression qui m'a traversé pendant un an à Toulouse, le lien qu'il y a avec Christian, qui est un témoin, qui essaie de me faire sortir, c'est une très belle définition de l'amitié. Il s'obstinait à me faire faire des promenades tous les dimanches, même s'il voyait que ça ne servait à rien, en pensant que c'était mieux que je reste couché. Et là, les deux vies se nouent, hein, c'est sur ce nouage-là, et ça dit quelque chose de son âme à lui, de son altruisme à lui, de sa tentative, voilà. Même si c'est pour rien, on va faire bouger un peu.
Et vous employez l'expression de entre lui et vous, dans la narration, finalement, c'est un entrelac de deux vies,
L'entrelac, y compris par des passions, puisque une partie de la librairie qui est chez moi maintenant, c'est pour ça que j'avais commencé à cette pensée. Au départ, c'était parti d'un truc du Marathon des Mots qui s'appelait « Chez mon libraire », il fallait saluer un libraire. Et j'avais inversé très vite en me disant « Mais moi, je vis vraiment chez mon libraire, parce qu'il y a tellement de livres achetés en Ombre Blanche qui sont chez moi. C'est comme si je vivais chez mon libraire, avec aussi ce beau mot ancien, la librairie de Montaigne, c'est sa bibliothèque. Hein, donc moi, j'habite les livres. Et lui, c'est le passeur de livres. Donc il y a des points communs déjà dans nos vies. Hein, là, rien à part avec les torrents. Dieu soit loué, je ne t'aurai pas.
Alors, est-ce que vous pourriez nous raconter comment a eu lieu cette rencontre qui s'est déroulée quand même dans un contexte où, a priori, c'était peut-être pas évident que vous vous accordiez aussi bien.
Oui, y compris avec les fausses réputations provinciales, comme on dit Barthes, les cheminements extravagants de la rumeur. Alors, moi, j'ai publié à ce moment-là, quand j'arrive en 96, Christian identifié très à gauche, voire extrême gauche, Verdier, puis c'est pas quelqu'un de facile, voilà, un côté bourrure. Moi, j'ai jamais trouvé, mais plein de gens vous diront c'était quelqu'un de pas facile d'avoir. Donc, un premier rendez-vous a lieu, parce que donc, je dois créer des choses d'art et culture à l'école, je pars de rien, et évidemment, me vient l'idée évidente d'aller contacter le libraire, pas encore de Gambetta, mais d'Ombre Blanche. Et donc, un ami fait le lien, alors le hasard fait que cet ami était très dans la sociologie, était un sociologue, alors, très à gauche, très engagé, et qui s'occupait, à ce moment-là, personne n'y croyait, il s'occupait du cas Hollande, notamment, il s'occupait du look de François Hollande, il coachait Hollande, à l'époque, personne ne pouvait y croire. Bref, en tout cas, par des réseaux communs, il dit à Christian, voilà, Yves Chardin, alors Christian, que c'est vaguement mes livres, et accepte tout à fait un rendez-vous. Mais de l'extérieur, ça paraissait pas, s'est dit, ça va pas le faire. D'autant plus que comme j'ai publié à la table ronde Parti d'Inac dans les années 96, c'était étiqueté chiracien à mort, et puis la table ronde avait quand même une histoire lourde, Denis est un immense éditeur, parce qu'il a quand même totalement changé l'image de la maison, que Isdéon a pu prendre ensuite, comme une... C'est une bénédiction d'en prendre une maison comme ça après. Donc on ne mesure pas à quel point pendant les 15 ans où il a joué à ça, parce qu'il n'a qu'à jouer à ça comme au reste, mais il a été un formidable éditeur. Et bref, donc c'était c'était pas gagné du tout. Il y a une anecdote, oui, dans le livre. En plus, j'arrive en retard à Porterelle, etc. Et je ne sais plus, il m'avait dit, je ne sais plus ce qu'elle blague fait. Et il y avait une anecdote, j'avais répondu que c'était en retard, mais on m'a dit que vous étiez de droite, oui, je suis en retard, je lui avais dit, mais je suis plus en retard que Mitterrand, mais moins à droite que lui. Et cette plaisanterie de Hussard, là. Et à la fin du déjeuner, on était amis. Alors ça arrive rarement, c'est comme les coups de foudre. À la fin de ce déjeuner, on ne se quittait plus parce que ça faisait 30 ans qu'on se connaissait. Ça n'a pas changé. Et depuis, ça fait comme 30 ans qu'il m'invite à déjeuner. Donc. Si un jour il m'invite plus, j'en tiendrai compte. Ouais. Voilà, c'est l'histoire pour vous la dire. Enfin, rumeur provinciale, chant contre chant. Et puis cette blague sur Mitterrand, qu'il avait... Je suis plus ponctuel que lui, mais moins à droite que lui.
Alors ouais. cette amitié, comme vous dites, elle a maintenant plus d'un quart de, mmh. un quart de siècle. Ah ouais.
C'est vraiment... Et on n'est pas d'accord sur tout, et on se
Alors,
dispute,
voilà.
Donc ça résiste.
Il y a des tensions qui sont liées peut-être à certaines de vos positions politiques ou vaccinales.
Ou vaccinales, enfin vaccinales, j'ai rien contre les vaccins, mais Pfizer, entreprise de santé, comme vous le savez. Et donc là, c'était... À la fin, je préfère plus en parler. voilà. Et donc, une fois, on avait fini par manger en haut, parce qu'on ne pouvait plus aller dans aucun restaurant, puis je n'avais pas de passe vaccinale. Donc, on avait mangé, j'avais adoré ça, dans un coin de la librairie, tout en haut, on s'en livrait des sushis. Ça avait vraiment un côté de plus en plus clandestin. voilà. Et je lui disais, vous rendez compte, vous laissez des gens qui n'ont plus le droit de prendre le train, c'est la fascisation du monde, etc. Donc, la Christian est terrifié. Calmez-vous. Et donc, je veux dire, cette amitié est vraie, puisqu'elle a résisté aux humeurs de l'un, de l'autre, aux complexions de l'un et de l'autre.
Alors, vous définissez...
Mais il a beaucoup plus de Pfizer dans le sang que moi, oui.
Vous définissez donc l'amitié, puisque ce livre, c'est un livre sur l'amitié, hein, notamment. Et vous avez une formule, c'est une politique, point,
oui.
L'amitié.
Oui, hein. Alors, c'est un titre de Derrida, politique de l'amitié. Mais ponctué comme ça, oui. Et c'est notre politique, elle est plus forte que des différents politiques quand ils sont arrivés. La vraie politique de la vie entre les gens, c'est l'amitié, oui. Particulièrement dans, c'est particulièrement vrai dans ce moment de naufrage politique comme celui que nous traversons. Dans lequel nous nous enfonçons, pour être plus précis.
Ça veut dire que l'amitié, c'est un peu lié à une volonté.
Enfin, c'est une politique, c'est une façon de faire la vie. Une façon de faire la vie, s'il y avait du temps que la politique faisait la cité, bon là, elle se défait sous nos yeux, mais c'est faire la vie, y compris malgré ces choses plus fortes que les idéologies, que les représentations, que les préjugés, que les... Ouais. Et c'est là, c'est le parce que c'était lui, parce que c'était moi. Quand même, c'est là que Montaigne a tout compris à cette chose-là. Et Dieu sait que la Boétie, il est beaucoup plus radical. Je ferai un peu la Boétie de Christian, il est beaucoup plus radical, je veux dire. Jamais Montaigne aurait écrit le contraint. Hein. Mais il adorait ce garçon, oui.
Alors donc, une amitié éclos, se conforte entre presque des personnalités et des d'horizons différents, des personnalités elles-mêmes différentes. Et donc, vous nous faites...
Le taciturne et le baroque, vous voyez.
Voilà, vous nous faites connaître Christian Torel. Et alors, vous le qualifiez de calviniste défroqué.
Oui.
Vous parlez de l'austérité torélienne.
Oui, hier, il faisait extrêmement chaud, hier, quand même, qu'on sort du Père de Grande Canicule. Il avait ça a été très austère, mais il avait quand même la chemise sur le pantalon. Ce qui veut dire que c'est vraiment extrêmement chaud pour qu'il... se négliger. Un jour, je suis arrivé à l'époque, j'étais habillé vraiment très très en couleur. Il y a une formule qui nous est toujours restée. Il regarde ça effaré, on était déjeuner, il dit « Vous ne pouvez pas vous habiller en pasteur comme tout le monde, Yves. » C'est une réplique à la gamin, ça. C'est du Audiard de la vie. « Vous ne pouvez pas vous habiller en pasteur comme tout le monde. » Il est tout en gris ce jour-là. Lui. Voilà. Donc c'est l'austère et le baroque, on peut dire. Ouais. Vraiment.
Voilà, c'est ça. Donc c'est ça qui est...
Donc les gens se sont dit « Ça ne durera pas.
» C'est ça qui est marquant. Alors, vous décrivez Christian Torel. Tout à l'heure, vous avez fait allusion au cinéma et vous dites que si sa vie était un film, il faudrait absolument que ce soit Noiret.
Dans mon imaginaire, à la fin d'ailleurs, la figure de Noiret, à la fin du livre, vient se superposer sur ce quai de Garonne. On est près de la maison de Nougaro, c'est presque Noiret. En plus, Christian est un cinéphile absolu, il avait tous les films, il connaît tout. Moi, j'ai juste des petits bouts de cinéma. Mais dans le livre, la question du cinéma est telle que pendant le confinement, je vais voir, parce que ma mère meurt à ce moment-là, enfin, c'est un moment terrible de la vie, et je traverse une ville déserte, qui est Toulouse, confinée, avant le couvre-feu. C'est pour qu'il y ait le couvre-feu, il fallait rentrer avant 18h. Et autres folies. Et je vais voir chez lui, c'est un très bel écran qui descend, le samouraï de Delon. C'est pas la mort de ma mère, j'avais tenté par la figure de Delon et la solitude du samouraï. Je suis allé le revoir chez lui, c'est un très beau geste d'amitié. Voilà. Il fallait que je sois rentré avant 18h, puis il recevait un pestiféré quand même, c'était beau.
Alors vous nous faites connaître Christian Torel. Je suis poser la question et j'en ai eu la un petit peu presque la preuve justement hier lors de la présentation d'Abati. Vous voyez entre vous?
Ah oui, Christian, oui. Je crois d'ailleurs dans le son de la main, dans mon ami maître, il dit je le vous vois encore aujourd'hui. Oui, oui. Il y a des grands maîtres comme ça. Ma mère adore le vous, moi j'adore le vous. Parfois même en amour, il y a des femmes qui vous voyez, je trouve ça très très beau. Vous, la langue des amants, disait Duras. Ah oui, oui, ce serait inconvenant, mais de part et d'autre, je pense à nous.
C'est partagé.
Ça annulerait. Je vous voyais comme ça, Michel Deguy. On ne tutoie pas Michel Deguy. Et Christian Torel. Et mon directeur de thèse, Jean Delabroix. Vous, absolument. Et oui, vous avez vu, on peut dire des conneries, on dit des blagues, hein, avec le vous. Mais oui, c'est, vous avez remarqué dans la vie.
Tout à fait.
Mais c'est bon, c'est la langue naturelle. Une amitié respectueuse.
Avant que nous ne l'écoutions, est-ce que vous voyez Serge Lama?
Non, il m'a demandé de le tutoyer. Et on y arrive, cet immense maestro est tutoyable. Enfin, c'est un des grands vous de mon cœur. J'ai eu deux chances dans la vie. Rencontrer Claude Nougaro très jeune et Serge Lama dans la maturité.
Nous écoutons Serge Lama.
Sur une musique d'Augustin Charnay.
Ô Camus, je te pleure. Petit pauvre d'Alger, à Paris naufragé, l'homme épuisé de femmes, de soleil et de larmes. Toi l'homme révolté, par la misère hanté, qui préféra ta mère à la justice amère. Ô Camus, je te pleure, mon héros tu demeures, toi qui es mort d'un Dostoïevski dans le cœur. Ô Camus, je te pleure, mon ami tu demeures, toi qui es mort d'un Dostoïevski dans le cœur. Toi que Sartre a sali, de Nobel avili, même si le cœur plie, la nausée ça s'oublie. Sur mon mur bien rangé, la peste, l'étranger, et ton regard terrible, passant mon cœur au crible. Ô Camus, je te pleure, mon héros, tu demeures, toi qui es mort d'un Dostoïevski dans le...
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous poursuivons notre voyage dans l'ouvrage de Yves Charnay, Le libraire de Gambetta, paru aux éditions Tarabuste en 2023. Yves Charnay, c'est par le chanson « Toi, l'homme révolté par la misère hantée qui préféra ta mère à la justice amère ».
Alors, il y a tout Camus dans cette chanson de la main, chanson magnifique. Hein, vraiment, il y a quelques perles dans le dernier album, Aimé, l'album final, voulu comme tel. Et celle-là, voilà. Alors, ça boucle beaucoup de choses, que ma mère avait cette passion de Camus, me parlait exactement de Camus, me citait tout le temps cette phrase, je préfère la justice, ma mère à la justice, je ne sais plus si c'est ma mère à la justice d'ailleurs. Donc il y a une figure maternelle. De façon stupéfiante, 30 ans, 40 ans après, Serge Lama a écrit ce texte, qui est vraiment un texte quand on l'écoute. Petit pauvre d'Alger, c'est vraiment magnifique. Et il se trouve que c'est mon fils qui fait la musique. Donc il y a sur cette chanson, vous en avez demandé les deux, le père Gabin et puis le père frère Lama, un effet de bouclage extraordinaire. Là, qui est... Si c'est pas de l'autofiction, ça c'est l'autofiction de la vie. Là. Qui a fait ça? Qui a fait ce truc que dans un roman on dit c'est trop, à la fin c'est ton fils qui fait la musique du disque d'adieu de Serge Lama? Non, Coco, c'est trop. Non, c'est comme ça la vie. Voilà, c'est en ça d'ailleurs quand la fiction ne peut pas être plus forte que ça. Alors ça, c'est une fiction heureuse, la vie, c'est faire des choses, des fictions bien, bien cruelles. Celle-là est magnifique et me dépasse, voilà. Et puis, bon, Serge ne s'est pas trompé, nous sommes d'anciens pauvres, lui comme moi, et donc on est dans le camp de Camus, c'est le chanteur des pauvres contre Saint-Germain, quand même, contre Sartre, ça n'enlève rien au génie de Sartre, mais chacun, on est dans des camps de départ dont on ne change jamais. Il y a une première chose dans l'avant-dernier album de Lama qui s'appelle « Quand on est pauvre, c'est pour toujours ». C'est Adamo qui avait fait la musique. Je crois qu'ils se sont bien compris là-dessus. Et c'est toute l'intégrité de Lama dans son amour de la littérature et des mots qu'on entend là dans la sculpture de chaque syllabe, puisque les chanteurs, eux aussi, sont voués à la syllabe. Hein. À un moment, il fait « héros », là, très très fort, parce qu'il veut dire tout ce qui est, pour lui, figure comme celle de Camus qui le garde. Puis alors, il y a une rime que j'aime beaucoup, puisque moi je vis dans un désordre invraisemblable, et que chez Luana met un ordre impeccable chez Serge. Et il y a donc sur mon mur bien rangé qui fait la rime à étranger. Et ça m'amuse toujours, j'adore ça. Et si un jour c'était bien rangé chez moi, ça se saurait.
D'accord. Alors revenons à Christian Torel.
Oui.
Donc dans ce livre...
Serge Larrain, Christian Torel, c'est pas mal.
C'est pas mal du tout. Et donc on apprend un certain nombre de choses sur Christian Torel, vu avec vos yeux. Et vous en profitez pour donner des définitions de certains mots par rapport à Christian Torel, par rapport au métier de libraire. Alors je voudrais en citer une ou deux. Vous définissez le métier de libraire en disant « L'homme vend de quoi réveiller ses cerveaux sous haute surveillance ». Ensuite, en parlant de lui, pour le qualifier lui plus précisément, vous dites « Il est devenu une encyclopédie vivante, une bibliothèque à lui tout seul, il est l'homme au livre, l'homme libraire ».
C'est l'anti-IA. L'IA viendra peut-être prendre la relève de ça. Mais là, c'était le temps où on donnait son corps à une chose et il fallait toute une vie. Comme Serge Lama est un homme chanson, Christian Torel est un homme livre, un homme bibliothèque. Voilà. D'autres sont des hommes piano, je ne sais pas. Mais oui, c'est peut-être que l'IA marque la fin d'une certaine définition de l'humanité et de l'homme, mais ce qu'on appelle les trésors nationaux vivants au Japon. À un moment, vous avez fait rentrer en vous tellement de traditions qu'il y a un respect particulier et qu'il y a, vous avez un corps particulier. Et là, c'est vraiment ça. Il explique très bien, Christian, que libraire, c'est un choix de solitude. C'est-à-dire, tu vis dans les livres, tu les déballes, tu les emballes, tu les vends, tu les remets, tu choisis les rayons. Enfin, tu peux pas partir loin. Enfin, c'est une solitude du libraire. Hein.
Et alors, il y a une
libraire total, comme ça.
Il y a une proximité entre le métier de libraire et le métier d'écrivain. Vous dites, ce ne sont pas des métiers libraire, écrivain. Ce sont d'autres façons de construire des châteaux de sable sur la plage d'une enfance en manque d'Espagne.
C'est pas des métiers, c'est sûr. C'est des obligations, quoi. C'est des obligations à être. Alors, est-ce que ça répare les châteaux? Les fameux châteaux en Espagne, on ne savait pas qu'ils étaient en sable, qu'ils s'effondraient. On ne sait pas. Mais oui, c'est aussi des barrages contre l'Atlantique, comme dirait Duras. C'est quand même des façons de repousser la mort, en tout cas le plus loin possible, d'y mettre le plus de savoir et de saveur, comme disait Barthes, possible avant qu'elle vienne sur le sable, comme les pas des amants, effacés sur le sable. Hein, tout ça sera effacé en trois vagues.
Dans votre livre, il y a la facette révélée au lecteur de la naissance, de l'apparition d'ombre blanche. Et vous dites que Christian Torel, finalement, a embrassé cette carrière un peu par hasard, en fonction de certaines circonstances.
À la fin d'une certaine errance, oui. Il y a les années d'apprentissage, non pas de Wilhelm Meister, mais de Christian Torel. D'abord, il cherchait le cinéma le plus sophistiqué de son temps. Il ne sait pas tout de suite. Il traîne de librairie en librairie. Par un moment, il est perdu. Il ne s'en fait pas de beaucoup. Et puis, le hasard le rattrape une ou deux fois par le col, y compris avec l'édition de Minuit et Henri Cauche, Géraldon, enfin, qui vont devenir, pour le coup, et des maîtres et des figures fondatrices de son destin. C'était pas du tout écrit d'avance. Si je raconte tout, c'est un élève égaré chez des ingénieurs. Enfin, il fait des études d'ingénieur dans lesquelles il ne se sent pas bien. Sans l'accident de voiture, il serait peut-être pas sorti de route comme ça, y compris. Voilà, voilà, je laisse les lecteurs relire ça, parce que de temps en temps, je fais ce qui est écrit sur ce titre. Je raconte qui est le libraire.
Alors,
libraire de Grand-Bétha. Je vous remercie de le rappeler.
Il faut le faire de temps en temps, mais il ne faut pas donner trop de détails, effectivement.
Mais il y a des années d'errance, voilà, ce n'est pas une carrière droite.
Alors, vous décrivez effectivement le caractère de Christian Torel, ce à quoi il a dû faire face. Je voulais vous demander, est-ce que...
Il y a une proximité avec là-bas, c'est-à-dire les accidentés. Des gens qui étaient accidentés gravement jeunes. Et Christian et Saint-Germain qui emportent la façon de marcher.
Je voulais vous demander si, parce que vous donnez des détails, je ne dirais pas intimes, mais personnels, est-ce que vous avez fait la démarche de lui demander s'il était d'accord?
Non, mais il a lu le livre avant, donc du bout du livre. Je vois beaucoup de Je publie sur Facebook, bon, Christian déteste Facebook, mais je publie quasiment tout ce que je fais en brouillon sur Facebook. Il avait eu des bouts. Il n'était pas pris en traître du tout. Je pense qu'il a su qu'il n'y aurait rien de trop intime. Qui ne peuvent pas être dans un livre. Enfin, c'est un livre assez. Pour ça, je sais bien qu'on ait commencé par Gabin, parce qu'il est de cette figure-là, y compris.
Oui, c'est.
Les choses qu'on dit, pas chacun le sait, mais ça ne sort pas des deux amis.
Et donc, vous dites, il a lu le livre avant qu'il sorte, mais est-ce qu'il était au courant que vous l'écriviez ?
Oui, quand je l'ai fait, oui, tout à fait. Je ne sais pas si je l'ai fait lire tout entier avant, ça, je ne sais plus, il faudrait redemander. Mais il n'y avait aucune, non, ce n'est pas du tout un effet de surprise. Ouais. Ça se fait progressivement, mais oui.
Alors, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur votre style. Alors, est-ce qu'on pourrait qualifier votre style de fragmentaire ?
Oui,
parce que
oui,
vous parlez de fragments, vous parlez également que vous préférez écrire de cette manière-là, comme les carnetistes. Alors, vous vous sentez... Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu cette manière de...
Lorsque les choses sont fragmentaires, contrairement à ce qu'on croit, je suis moderne, donc le moderne, c'est le fragment. Depuis les romantiques allemands, ça ne s'unifie plus. Et on ne peut pas faire un libraire de Christian Torrey. Ce n'est pas un libraire, c'est des bouts de libraire. C'est des bouts de portrait. Tout est en bout, tout est en lambeau. Dirait Charles Juliette. Donc ça, c'est la dimension moderne. Pas pour faire moderne, parce qu'on est moderne, donc les classiques, enfin, voilà, c'est le fragment. Le fragment à l'âge classique est tellement passionnant, mais bon, d'une part. Donc le livre ne se boucle pas, les livres ne se bouclent pas, comme les vies. Vous avez très bien parlé d'un rendez-vous inachevé au début. C'est exactement ça. Un rendez-vous inachevé, et puis on ne peut pas tout dire, on ne doit pas. Enfin, la vie est toujours plus compliquée que tout ça. Puis c'est bien que c'est un goût d'inachevé, parce qu'on n'a pas envie que ça se termine. Et j'ai hélas l'âge où je commence à avoir perdu les grands amis qui vous ont fait. Donc c'est une situation extrêmement étrange de ne plus aller voir Michel Deguy, c'est très émouvant. Et c'est étrange parce que ça fait 30 ans qu'on faisait ça, et qu'est-ce qu'on fait maintenant, on ne veut plus le faire. Quoi. Ça c'était en général, et vous disiez quoi ?
Par rapport à cette activité de carnetiste.
Oui, et puis alors... même si c'est pas souvent du carnet, parce que tout se passe sur ordinateur, mais quand même, c'est une bonne métaphore de ce que j'essaie de faire, le carnet de notes. Voilà. Y compris que, finalement, Abatti aussi, c'est des phrases notées. Voilà. Même quand souvent, parfois même j'invente l'idée d'un carnet rouge, que je vois un carnet rouge, mais c'est une bonne représentation de ces bandes de prose qui en plus passent quand elles veulent. C'est-à-dire qu'il y a des moments entiers où on n'écrit pas. Hein, et là, je commence à mesurer que depuis la mort de ma mère, j'ai publié deux livres, mais c'est pas moi qui les ai écrits, quoi, donc c'est bizarre. J'ai réécrit un livre, c'est mon livre sur Juan Bautista, que j'ai réécrit en allongeant, mais bon, je n'ai pas réinventé sa matière. Puis alors Abatti, c'est pas moi qui l'ai écrit du tout, c'est tous les autres qui l'ont écrit. Et je commence à mesurer ça avec un peu de vertige. Tiens, tu as trouvé une façon que ça se voit pas, mais tu n'écris plus. Voilà. D'abord, celui qui tenait la plume du libraire, là, je sais pas où il est passé. J'aimerais quand même que je le retrouve quand même, parce que je fais. C'est mon temps à recopier non plus.
À propos du carnet, vous
parlez... Carnet, charnet, j'y peux rien, mais ça sonne dans le nom.
Et vous parlez de l'utopie propre au carnet.
Ouais.
Vous écrivez « Conserver l'énergie de l'écriture considérée comme un geste poétique dans la langue et par là même échapper au radotage névrotique du roman. »
Voilà.
Mais moi, quand je lis ça, je me demande si ça ne serait pas l'inverse.
Une petite méchanceté sur le roman.
J'ai l'impression.
C'est le plaisir de jouer sur le roman, puisque tout le monde en fait, même mes meilleurs amis, y compris eux. Mais quand même. Par contre, ce qui est vrai, c'est ce que Tichinard appellerait l'attaque. C'est-à-dire une note, c'est toujours une attaque, c'est toujours un démarrage. Donc il faudrait que chaque phrase puisse être la première. Hein. Comme on fait une chanson, Petit pauvre d'Alger, voilà, c'est une chanson. Cet amour me tue, si ça continue. Voilà. La note, il y a une énergie dans la note, c'est ça que je voulais dire, hein, qui vient disloquer la trop belle unité du roman. Ils sont bien obligés de tout le finir, c'est le contraire de ce que je fais. Ils sont obligés de tout le finir, leur roman. Une immense amie, une immense admiration pour Sarachis, elle m'explique, elle fait des plans, elle sait où ça va, il y a des longueurs, des latitudes, et tout ça. Je suis incapable, donc, déjà. Et puis deux, je ne veux pas faire ça quand même, malgré l'admiration que j'ai pour fait Sarah Chiche, mais c'est pas ça que je veux faire. Je veux faire des trucs aussi inachevés, aussi disloqués que nos vies. Mais bien que nos vies, elles font pas des trois parties.
Alors Yves Charnay, pour terminer, je voudrais qu'on passe un tout petit instant sur votre style. Alors votre style, vous êtes le spécialiste de l'inversion du sujet. Exemple, la meilleure définition de l'universel, point, une librairie, ça veut dire libre, ça veut dire d'abord libre, point, le mot livre. Au lieu d'écrire EET, c'est le E commercial. Et vous inventez des mots, tentative avec la terminaison avec le prénom Yves, encore en deux mots.
Ça, je vous parlais de la manipulation de la langue au couteau, comme voilà, une poétique de la langue.
Vous êtes dans la sculpture.
Comme Rabelais aussi, enfin, vous êtes dans la sculpture. Voilà, les mots dans la. Les paroles gelées, là, qu'il faut dégeler. Voilà.
Alors, ça caractérise bien votre style. Et puis, il y a encore autre chose qui caractérise votre style. Et puis, je vous demanderai de parler très rapidement un instant de votre dernier ouvrage. C'est que vous êtes un spécialiste de ce qu'on pourrait appeler le mur des citations, c'est-à-dire vous crépissez le début du livre avec des épigraphes et des citations en abondance, ce qui vous a même amené à écrire votre dernier livre, Abatti, qui sort ces jours-ci, où il n'y a pas un seul texte de vous, mais voilà. Uniquement des citations.
Si j'étais un auteur célèbre, on dirait ça. Vous n'avez pas Yves Charnay. C'est le livre qu'il vous faut. Il n'y a pas une phrase d'Yves Charnay dedans. Puisqu'il y a une magnifique préface de Laurent Roth. Et puis tous les autres sont Samuel Beckett, Victor Hugo, Blaise Pascal, Pascal Quignard, Pierre Reverdy, Baudelaire, Thelonious Monk, John Coltrane, Paul Celan, et qui je vous trouve encore, et Charlie Chaplin, pour donner l'idée de la variété. Donc c'est un autoportrait en citation. De la bigarrure, du sujet bigarré que nous sommes, dans tous ces attachements qui vont de ça va de Audiard à Saint-Augustin, et c'est la cueillette infinie, interminable des phrases qui nous font tilt à chaque fois qu'on les lit, celles qui ne font pas tilt, on les laisse.
Donc, opus extrêmement original d'Yves Charnay, dont je vous lis une petite phrase de Laurent Roth au sujet de ce livre. Le livre a déjà commencé, le livre est infini, c'est toujours le même livre qu'Yves écrit. Je n'arrive pas à lire Abatti autrement que comme un roman de formation.
Ça, je suis très heureux qu'il ait écrit ça, parce que c'est un roman de formation éternelle. La Bildung, comme disaient nos amis allemands.
Yves Charnay, mille merci d'être venu à Parole d'auteur.
C'est moi, merci de votre attention.
Je rappelle que donc, vous nous avez parlé de votre livre Le Libraire de Gambetta, paru en mars 2023 aux éditions Tarabuste. Merci aux auditeurs pour leur fidélité. Au revoir à tous et surtout, bonne lecture.